Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h en direct sur Radio IMO.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'IMO. Nous sommes le vendredi 16 avril 2021 et comme chaque vendredi, eh bien, on va se retrouver avec 2 heures d'information, 2 heures de rencontre avec l'un de nos grands témoins traditionnels. Mais d'abord, on va démarrer avec l'information. Dans quelques minutes, nous écouterons Philippe Taboret, le directeur adjoint de CAFPI, qui nous évoque l'enquête IFOP menée pour CAFPI sur le thème des Français et de l'accession à la propriété. Et puis nous écouterons également Vincent Favéro qui nous racontera que l'État va racheter plus de 1300 logements dans l'immense copropriété de Grigny 2, un projet d'ampleur. Et puis nous reviendrons sur le bilan de l'année d'Alila, le spécialiste du logement social et intermédiaire, avec son président Hervé Legros. Et puis dans la deuxième partie de ce MAG, nous retrouverons notre portrait du jour. Aujourd'hui, nous allons réécouter celui de Loïs Bourdic, le directeur général de Pricewell, un portrait que nous avions réalisé en octobre dernier et que vous pourrez réécouter à partir de 8h. Mais en attendant, place à l'info, place au MAG de l'IMO.
Le MAG de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Elle était attendue, la voilà, la 8e édition de l'enquête IFOP sur le thème des Français et de l'accession à la propriété, commandée par CAFPI et réalisée peu avant le 3e confinement de janvier, fait état de l'envie toujours forte chez les 25-65 ans d'acquérir un bien immobilier d'ici 5 ans. Un paradoxe bienvenu, un de plus en pleine pandémie, dans un climat anxiogène et avec la présence d'obstacles conjoncturels. Bref, Philippe Taboret, le directeur adjoint de CAFPI, évoque sa vision et son analyse au micro de Nicolas Tarade.
Bonjour Philippe Taboret.
Bonjour.
Vous êtes venu nous présenter la 8e édition d'un sondage IFOP pour CAFPI. Alors elle dit quoi, cette enquête, dans les grandes lignes? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la pierre reste une valeur refuge par excellence?
Si on avait encore un doute, cette enquête qui est complètement objective nous le prouve. C'est pas nous qui le pensons, c'est les clients qui le disent eux-mêmes, qu'effectivement le sujet de la pierre est essentiel. Alors, est-ce que c'est une évolution des mentalités? On sait que depuis, dans une autre partie de la conférence de presse de ce matin, il y avait ce qui montrait, depuis ces 50 ans que nous fêtons cette année, l'évolution de l'attrait de la pierre pour les Français. Et on voit bien qu'avant 2000, c'était assez moyen, et que d'un seul coup, ça a flambé après 2000. D'ailleurs, ce qui fait le problème du coût du logement, le coût du logement a doublé dans l'endettement des Français en quelques années, enfin entre cette période d'avant 2000 et cette période d'après 2000. Et aujourd'hui, on est sur des 4,5 à 5 années de revenus pour pouvoir se loger, ce qui est assez phénoménal. Mais ce qui s'explique aussi, c'est que on sait que ce coût augmente parce qu'il y a un manque de logement, mais c'est qu'il y a cette appétence, quoi. Il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs modes de vie qui ont évolué dans ce domaine. C'est vraiment le souhait d'une valeur refuge, être chez soi, bien, confortable. La pandémie ou la crise sanitaire a encore accentué ce sentiment d'avoir besoin de se retrouver dans son cocon en cas de difficulté. L'élément valeur refuge de la pierre, bien sûr, on sait que ça garde sa valeur. Ça peut en prendre au moment où ça flambe, mais en tout cas, ça la garde, la valeur. Donc, on a un placement sûr par rapport aux bourses, à l'économie mondiale qui est chahutée quand même en ce moment. C'est une valeur refuge financière. Et puis, l'avenir est de plus en plus incertain avec ce qui se passe, les retraites, les enfants, comment je les sécurise, comment je leur prévoit de leur céder quelque chose, comment moi je me sécurise pour ma retraite, d'avoir payé mon toit, ça me garantira au moins un logement, et c'est vraiment de la sécurité à tous les niveaux.
Les primo-accédants dans tout ça?
Eux, ils ont bien réagi aux assouplissements des critères HSF de fin d'année dernière. Ils étaient beaucoup trop durs et les excluaient de façon en masse sur toute la fin de l'année dernière. On a vu une chute fondamentale de cette catégorie d'emprunteurs et qui a remonté en fin d'année dernière en décembre avec les changements de critères HSF, endettement, etc., souplesse d'acceptation sur ces primos à 20% au lieu de 15%, qui ont permis effectivement de faire revenir en confiance déjà En disant, ah bon, les banques se détendent un petit peu, ils ont le nouvel droit de prêter, donc les gens sont revenus en confiance. Et puis, bien sûr, des dossiers qui étaient exclus un mois plus tôt devenaient finançables. Et ça fait monter la part des primo-accédants dans notre production, ce qui est plutôt un très, très bon signe, une très bonne nouvelle.
Oui, puis ce que je trouve intéressant dans cette étude, justement, réalisée par l'IFOP pour CAFPI, c'est que les primo-accédants, on le voit, ont toujours envie d'accéder à la propriété, peut-être même plus que les autres.
Ah oui, bah leur refuge, on l'a dit tout à l'heure, mais le plus, sécurisation, il y a toutes les valeurs. Et puis il y a cette appétence qui a toujours été au fond du cœur des Français, qui ne fait qu'augmenter chaque année, ce qu'on disait, hein, si on regarde avec un peu d'histoire. Et de plus en plus, hein, être chez soi, son chez soi, si j'ai envie de faire des travaux, mais quand je ne suis pas chez moi, bah, j'ai l'impression de jeter un peu ces travaux. Bon, j'en profite, mais à un moment, est-ce que je devrais... Quand je suis chez moi, j'ai envie d'investir, je valorise mon patrimoine, j'y mets du confort, du plaisir de vivre, et c'est essentiel, surtout, encore une fois, après cette crise sanitaire, ça n'a fait qu'augmenter. On a envie d'être en plus avec un petit rayon de soleil, un petit bout de jardin, ou au moins une terrasse, et ça change fondamentalement l'approche qui existait. Enfin, en tout cas, ça accentue cette approche « j'aime la pierre », c'est pas seulement « je réfléchis et je fais un investissement intellectuel ou financier », c'est « j'aime la pierre ».
Comment vous voyez l'avenir, les mois, l'avenir ? Est-ce que, parce qu'on sait que la période en ce moment est floue, est-ce que l'avenir l'est encore plus ou pas du tout ?
Oui, d'un point de vue général, hein, bien évidemment, on va probablement sortir de la crise vraiment telle qu'on la vit depuis plus d'un an avec le vaccin, donc à la rentrée septembre. Ça va avoir des impacts sur l'économie, peut-être sur les taux d'intérêt de crédit, donc je suis assez méfiant à voir. Alors, moi, j'ai jamais été contre une remontée des taux, puisqu'en fait, ça signifie que d'un autre côté, la croissance est revenue, qu'il y a un peu d'inflation saine, donc la machine repart. C'est pas mauvais. Il faudrait pas que ces taux flambent. Et là, parce que là, on exclurait beaucoup de candidats à l'accession et au crédit, et c'est plus ennuyeux. Je suis assez optimiste quant à la réaction. Ce que je crains principalement, c'est la période électorale dans laquelle on rentre. On fait plein de belles promesses qui vont être faites, mais je pense que la France est depuis de nombreuses années, des dizaines d'années, dans une crise du logement profonde, qu'il va bien falloir qu'un jour ou l'autre, les politiques prennent en charge. Aujourd'hui, on est encore en train de nous inventer des nouvelles procédures qui vont contraindre la construction avec une vision écologique du système, pas d'artificialisation des sols, moins de dépenses énergétiques. Oui, mais tout ça a un coût. Faisons déjà en sorte d'avoir suffisamment de logements pour bien loger les Français. Ça serait déjà une première étape, donc de construire plus, de permettre aux promoteurs de développer l'activité, de faire de la recette économique, de proposer des biens, faire tomber grâce à cela les prix de l'ancien. Enfin, tout ça, c'est une chaîne vertueuse qui doit être considérée par les politiques, qui aujourd'hui est un peu négligée. On met des bouts de sparadrap, on met des petites injonctions politiques ou des petites décisions, mais il faudra un vrai plan. Et je pense que la profession aujourd'hui appelle à un plan long terme, ou en tout cas moyen terme, du logement qui devient indispensable pour la France.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Le plan bâtiment durable vient de lancer la concertation sur le label RE 2020, une concertation qui va se dérouler jusqu'au 7 mai 2021. Alors quelles en sont les étapes ? Explication de Vincent Faveron.
C'est le début de la concertation pour le label lié au RE 2020, comme l'a annoncé cette semaine le plan bâtiment durable. Depuis 2009, le plan bâtiment durable fédère un nombre important d'acteurs du bâtiment et de l'immobilier autour d'une mission commune, favoriser l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique et environnementale dans ce secteur. Le plan bâtiment durable est rattaché au ministère de la Transition écologique et à celui de la cohésion des territoires. Mais c'est bien la ministre du Logement qui a missionné le président du plan bâtiment durable pour mener les travaux de concertation sur ce label. Ce label qui va donc accompagner la mise en œuvre de la RE 2020, nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs qui se veut plus ambitieuse contre le changement climatique. Ce label devrait poursuivre deux objectifs, valoriser les bâtiments qui anticiperont les étapes de la RE 2020, prendre en compte des thèmes et critères nouveaux, ainsi que la capacité des concepteurs à innover afin de préfigurer les bâtiments du futur. L'idée du label, être un guide et un totem d'exemplarité en matière de bâtiments écologiques pour les collectivités locales, les bailleurs sociaux, les maîtres d'ouvrage publics et privés. Il pourra également être accompagné d'incitations fiscales ou réglementaires. La concertation s'inscrit donc dans cette lignée et dans ce cadre fixé par Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement. Objectif pour le plan bâtiment durable, ouvrir largement la concertation pour pouvoir faire rapidement des propositions pour l'ARE 2020. Les différents groupes de travail vont donc entrer en action dès maintenant. Groupe carbone, gestion durable de l'eau, économie circulaire ou encore biodiversité. Il y en a d'autres. Toutes les propositions seront disponibles ensuite sur le site du plan bâtiment durable avant d'être débattues puis présentées à l'État pour définir les orientations du futur label, très attendu par les professionnels de la construction et de la rénovation.
Le Mac de Limo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Allô Radio Imo, c'est vous les journalistes, c'est vous qui posez vos questions. Pour y répondre, les meilleurs experts, agents immobiliers, assureurs, avocats, comment acheter sa maison au meilleur prix? Comment négocier le prix d'un loyer avec son propriétaire? Comment ne pas se faire arnaquer par un artisan peu scrupuleux? Les experts d'Allô Radio Imo vous répondent chaque vendredi à 9h sur Radio Imo. Alors, à vendredi!
ThyssenKrupp Elevator. Et maintenant, TK Elevator, entreprise majeure sur le marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques. Répartis sur toute la France, les techniciens expérimentés TK Elevator interviennent pour maintenir la mobilité des usagers en toute sécurité. Engagés dans le développement des bâtiments intelligents, TK Elevator propose des produits et services innovants comme le service de maintenance prédictive MAX. La mobilité urbaine ne connaît plus de limites. TK Elevator, move beyond. www.tkelevator.fr.
Le Mac de Limo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
58% des Français sont propriétaires de leur logement, selon l'INSEE. Cela demande parfois un bon salaire, un apport important, surtout dans les grandes villes de France. Alors est-il préférable d'acheter ou de louer sa résidence principale? C'est la question à laquelle répond une étude menée par Saveimo, l'application conçue pour calculer en moins d'une minute la pertinence d'un projet immobilier. Son fondateur Paul Dutoit nous explique qu'il est plus judicieux d'investir dans son logement au micro de Bérénice.
Paul Dutoit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'appli Saveimo et vous avez réalisé une étude pour savoir s'il vaut mieux louer ou acheter sa résidence principale. Alors déjà, pourquoi avoir réalisé cette étude et comment l'avez-vous réalisée?
Eh bien, tout simplement, on s'est rendu compte que beaucoup de locataires avaient peur de se lancer dans leur premier achat. Et donc, on a voulu réaliser cette étude pour justement leur montrer que ça demande peut-être un effort financier quelque peu important, mais ça en vaut le coup, même à court terme. Et donc, comment on l'a réalisé? On a pris les 10 plus grandes villes de France. On a pris un appartement type, donc là, un 2 pièces de 45 mètres carrés. Et dans ces 10 villes, on a dit, OK, alors sur 5 ans, quels ont été les prix d'achat de ces appartements? Ça nous a permis de pouvoir voir l'évolution du prix au mètre carré et de pouvoir faire cette étude.
Donc pour voir en fait si ça permet d'avoir une plus-value par exemple.
Exactement, ça va nous permettre de voir exactement combien est-ce que l'acquéreur va payer tous les mois d'efforts financiers et à la revente, au bout de 5 ans ou 10 ans, voir le capital qu'il aura accumulé.
Voir si c'est un bon investissement.
Exactement, voir si c'est un bon investissement.
Vous avez fait cette étude dans les 10 plus grandes villes françaises.
Oui.
Justement, dans ces 10 plus grandes villes, est-ce qu'on a une plus-value pour chaque ville?
Alors, on a toujours une plus-value. Maintenant, c'est au bout de combien de temps? Et ce que l'étude montre, c'est que déjà, on a remboursé les frais d'acquisition, donc tout ce qui est notaire, frais liés à l'emprunt, assez rapidement. En moins d'un an, en fait, à chaque fois.
Dans chaque ville, ouais.
Dans les 10 plus grandes villes, en tout cas, de France. C'est hyper intéressant. On voit, par exemple, qu'à Lyon, en 6 mois, on a remboursé tous ces frais-là. Comment ça se fait? En fait, c'est lié au fait que Lyon, sur ces 5 dernières années, ça a pris presque 7% par an, le prix du marché, donc ce qui est énorme. Et on se rend compte que être locataire dans ces villes-là, plus de 2 ans, c'est moins intéressant financièrement que d'être propriétaire de sa résidence.
Du coup, il en ressort de votre étude que Lyon est la ville française la plus intéressante pour acheter sa résidence principale.
C'est une des plus intéressantes, parce qu'on a une évolution du prix du marché qui est considérable.
Et quels sont, on va dire, le top 3 des villes françaises les plus intéressantes pour acheter sa résidence principale?
Eh bien, je dirais Lyon en premier, comme on l'a dit. Nantes, c'est une ville qui est très dynamique. On a eu, sur ces 5 dernières années, on a eu 6,6% d'augmentation du prix au mètre carré. Et Bordeaux, forcément, on l'a vu dans tous les médias, c'est le nouvel Eldorado parisien. Et donc forcément, ça a pris énormément de valeur aussi.
D'accord. C'est les avantages à acheter sa résidence principale. En revanche, quels sont les inconvénients, les freins ?
Eh bien, quand on achète, souvent, on va devoir dépenser un peu plus par mois. Alors forcément, il y a de l'argent qui va pour capitaliser, mais il y a de l'argent qui est perdu. Par exemple, des charges liées à l'entretien du bâtiment qui sont forcément perdues, etc. Donc, on va devoir dépenser en général un peu plus d'argent que si on était locataire. Et aussi, quand on va acheter, la banque va souvent, très souvent, nous demander un apport qui est en général de 10% du prix du bien.
Vous avez aussi dans votre étude, vous vous êtes intéressé au salaire nécessaire moyen pour acheter. Ce salaire doit être plus important lorsque l'on veut acheter que lorsque l'on veut louer.
Effectivement. Par exemple, à Lyon, pour une mensualité de 1000 euros, on va à peu près devoir gagner 3000 euros. En location, c'est pareil. Sauf que en location, pour le même bien, on va avoir un loyer seulement de 800 euros. Donc le salaire nécessaire, il va être seulement entre guillemets de 2400 euros. Donc être locataire dans les plus grandes villes de France, parfois, c'est nécessaire parce qu'on n'a pas le revenu nécessaire pour pouvoir accéder à la propriété. Mais dès qu'on a un peu plus de cash, de revenus, là, ça devient vraiment intéressant d'acheter.
J'ai vu dans votre étude que ça dépend des villes aussi. Par exemple, si l'on prend Paris, il y a une différence énorme entre le salaire que l'on doit avoir pour louer et le salaire que l'on doit avoir pour acheter. En revanche, Lille, par exemple, la différence est moins grande.
Voilà, effectivement, on voit qu'à Lille, par exemple, il y a une différence de 150 euros par mois de salaire nécessaire. C'est rien du tout. Et il y a même des villes où c'est même plus intéressant de financièrement sur le coût global, enfin sur le coût que ça me coûte tous les mois, c'est même plus intéressant d'être propriétaire. Mais il faut
Quelle ville, par exemple ?
Montpellier. Montpellier, en tant que locataire, il faut à peu près 2000 euros par mois pour être dans un 45 mètres carrés. Alors que si on l'achète, la banque nous demandera à peu près 1800 euros, 1750 euros, quoi.
Du coup, vous, Paul Dutoit, qu'est-ce que vous conseillez, vous qui êtes, je le rappelle, un fondateur de Save Imo, une application justement qui aide les personnes à se décider, en fait, à acheter, à passer le cap ?
Eh bien, tout simplement, il suffit de aller voir les biens qui vous intéressent autour de vous et aller signaler leur achat sur l'application Save Imo. C'est totalement gratuit, c'est hyper rapide et ça vous permet de voir combien le bien va vous coûter tous les mois, combien le crédit va vous coûter, combien les charges vont vous coûter, combien l'assurance habitation va vous coûter, etc. etc. Et ça va vous dire, ok, le montant exact de l'emprunt par rapport à votre apport et par rapport à l'appartement que vous visez, il va être de temps et vous allez pouvoir aller voir la banque ensuite et leur demander un financement pour cette somme-là.
Et du coup, la conclusion, alors, c'est vaut-il mieux acheter ou louer ?
Eh bien, ça dépend des villes, mais moi, je vous conseille, si c'est pour du moyen terme, en tout cas, acheter, forcément.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Paul Dutoit. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'appli Save Imo. L'interview est à retrouver, évidemment, en podcast sur notre site Radio Imo et sur notre appli.
Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
C'est l'une des plus grandes copropriétés d'Europe et l'une des plus surendettées. Aussi, l'État se résout à racheter 1300 logements, soit pour les transformer en HLM, soit pour les détruire. Les détails avec Nicolas Tarade.
20 ans de soins intensifs face à la spirale du surendettement et après avoir été à son chevet pendant 2 décennies, l'État se résout à racheter d'ici à 2026 plus de 1300 logements dans la copropriété Grigny 2 dans l'Essonne, alors soit pour les transformer en logements HLM, soit pour les détruire. Cet ensemble d'immeubles représente à lui seul près de 40% de la ville de Grigny. Sur les 5000 logements de l'une des plus grandes copropriétés d'Europe, connue pour être gangrénée par des logements insalubres, eh bien 1320 logements vont donc être rachetés par l'État, par l'intermédiaire de l'établissement foncier d'Île-de-France, et ce, sous l'œil inquiet de certains copropriétaires. Exemple, avec ce quinquagénaire devenu propriétaire en 2015 d'un 85 mètres carrés pour 90 000 euros. Il ne sait pas ce qu'il retirera de cette cession. Il a encore 56 000 euros de crédit à rembourser et 10 000 euros de retard de charge très élevé dans ses bâtiments d'en moyenne 350 euros par mois. Après une vente à l'amiable, les copropriétaires concernés auront soit accès à un logement social, soit la possibilité d'acquérir un nouveau logement agréé. Grigny 2, nous laissons le choix aux propriétaires occupants, affirme la préfecture de l'Essonne. Un accompagnement social sera assuré.
Le Mac de l'Imo, l'emploi dans l'Imo, Aurélie Dantez.
Et il est l'heure de retrouver notre partenaire Recrutimo pour découvrir de nouvelles annonces d'emploi parues cette semaine. Et pour cela, on retrouve Aurélie Dantez, responsable de l'acquisition de talents chez Recrutimo. Bonjour Aurélie.
Bonjour Johanna et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux annonces parmi les offres d'emploi que nous avons sur Recrutimo.com. La première est Ravagram Luxury Property et implantée dans le secteur prestigieux de la Plaine Monceau dans le 17e arrondissement depuis plus de 5 ans. Il recherche des négociateurs ou des négociatrices indépendants avec de l'expérience dans l'immobilier. La deuxième, GFI Conseil est un cabinet d'administration de biens situé à Montreuil dans le 93 depuis plus de 30 ans. Il recherche une ou une assistante comptable de copropriété.
Et comme chaque semaine, vous êtes venu avec un conseil pour les recruteurs et un conseil pour les candidats.
Si j'avais un conseil pour les recruteurs, si vous voulez avoir plus d'informations sur la reconversion professionnelle, retrouvez Recrutimo lors de son interview à l'atelier Wahoo Révolution RH, jeudi 15 avril de 14h à 16h. Sur le thème, la reconversion professionnelle et l'engagement des jeunes ont un rôle de plus en plus déterminant dans la révolution RH. Et pour les candidats, focus aujourd'hui sur les métiers de comptable copropriété. La comptabilité immobilière attire chaque année de nombreux candidats pour évoluer vers des postes à responsabilité de comptable copropriété. Sa mission consiste notamment à traiter l'aspect financier des différents dossiers. Le comptable de copropriété peut exercer au sein d'une agence ou d'un cabinet spécialisé. Vous pouvez retrouver toutes les fiches métiers sur recrutimo.com. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Aurélie, on vous retrouve la semaine prochaine avec de nouvelles annonces et de nouveaux conseils. Et en attendant, direction le site www.recrutimo.com pour découvrir des milliers d'annonces d'emploi dans l'IMO.
Le Mac de l'IMO revient avec Promu, Crédit Advisor et Opinion System.
Et voilà de quoi bien démarrer ce vendredi matin. C'est une nouveauté, c'est sur Radio Imo. Ça s'appelle Paradigme et c'est signé La Femme.
Le Mag de l'Imo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Beanstock est la première plateforme d'investissement locatif qui fonctionne sur le modèle des marketplaces. Le succès de ce nouveau modèle permet de rendre l'investissement locatif simple, lucratif et accessible au plus grand nombre, et ce même sans la moindre connaissance en immobilier, tout en gérant son bien. Depuis son propre canapé, c'est alléchant. Eh bien, Alexandre Fitoussi nous en parle au micro de Kenza Brega.
Bonjour Alexandre Fitoussi.
Bonjour Kenza.
Bienvenue, vous êtes le CEO et le cofondateur de Beanstock. Alors avant justement de parler de votre modèle, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment a commencé l'aventure pour vous avec cette société Beanstock ?
Oui, alors déjà on est deux à monter cette boîte, je monte ça avec Emma, ma cofondatrice. Et en fait l'idée elle est née à la base de mon expérience à titre personnel. J'ai moi-même beaucoup investi dans l'immobilier locatif dès le plus jeune âge, j'avais 24 ans quand j'ai commencé. Et j'ai acheté depuis plus d'une dizaine d'appartements moi-même et j'ai commencé à avoir pas mal d'amis, de membres de la famille, puis des amis d'amis, etc. qui commençaient à me demander de l'aide. Et j'ai commencé à me rendre compte que tout le monde s'y intéressait, mais que quel que soit le niveau d'expérience, il y avait un problème. Il y a un moment où ça bloque, les gens n'arrivaient pas à le faire seuls et donc j'ai commencé à essayer de les aider. Je me suis rendu compte qu'il fallait professionnaliser la chose parce que c'était quand même très responsabilisant, mais aussi ça prenait beaucoup de temps. Et c'est là qu'Emma est intervenue aussi dans mon histoire, puisque Emma, c'est la première à avoir vu comment le digital pouvait régler toutes ces questions et comment on pouvait traiter un grand nombre de dossiers et aider un maximum de monde de façon efficace.
Alors justement, comment est-ce que votre plateforme rend l'investissement locatif finalement plus simple, plus lucratif et accessible au plus grand nombre ?
Alors, ce qui est important, voilà, c'est vraiment bien résumé notre mission, c'est voilà, rendre l'investissement locatif simple, agréable et en même temps de rationaliser les coûts partout. Donc en fait, la grande problématique de l'immobilier en général, quand on va investir, c'est qu'il y a énormément d'étapes. Et qui dit beaucoup d'étapes, dit deux choses. D'abord, ça dit qu'il y a beaucoup d'intermédiaires différents. Vous allez parler à beaucoup d'interlocuteurs, un notaire, un agent, un banquier, un locataire, une agence, bref, il y a énormément d'interlocuteurs et ça peut vite décourager. Le deuxième point de blocage qui est lié au fait qu'il y a beaucoup d'étapes, c'est qu'à chaque fois, on rémunère quelqu'un. Et donc, nous, on règle.
Il y a beaucoup d'intermédiaires, vous voulez dire.
Exactement. Beaucoup d'intermédiaires.
Beaucoup trop d'intermédiaires, d'ailleurs.
Beaucoup trop. Et en fait, ça participe. Les gens, très souvent, quand on leur demande ce que c'est le coût du capital en immobilier, ils vont parler du taux d'intérêt du crédit. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que dans l'immobilier, il y a une autre couche de coûts qui est liée à tous ces intermédiaires qu'on rémunère tout le temps, tout au long de la vie du bien. Ah, oui. Celui qui fait les travaux, l'agent immobilier, etc. Et donc, nous, on a réglé les deux problèmes d'un coup, puisqu'on a dit, il n'y aura plus qu'un seul interlocuteur, c'est Beanstock, à toutes les étapes. Et en plus de ça, il n'y aura qu'une seule personne à rémunérer, c'est Beanstock. Donc en fait, dans notre frais, il y a tous les frais qui auraient dû être payés autrement. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est sur une transaction, on voit que le montant moyen des coûts qui sont annexes, que les gens ne voient pas forcément, c'est autour de 15% du prix du bien. Et du coup, nous, aujourd'hui, notre facturation, c'est 7,2%. Donc notre objectif, c'est de diviser par deux le coût du capital. On a une grande transparence au niveau des prix. On prend jamais d'argent sur tous les partenaires qu'on propose et sur tous les interlocuteurs qu'on fait travailler avec nos clients. Et donc, même ça, pour le client, c'est très agréable parce qu'il a l'impression de travailler en transparence.
Alors, est-ce que vous avez l'impression, justement, Alexandre, que votre modèle va répondre de plus en plus aux exigences liées à la crise et à ce que, justement, nous traversons, selon vous ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a l'immobilier en tant que tel. L'immobilier en tant que tel, aujourd'hui, dans le locatif, c'est quelque chose qui rassure énormément. Les gens, depuis un an, on le voit, ils ont beaucoup plus de temps, ils ont envie de se projeter, ils ont envie de se rendre plus indépendants. Il y a beaucoup de gens de la génération des moins de 40 ans qui, aujourd'hui, commencent à se demander comment être à la retraite le plus vite possible. Et donc, il y a toute une question sur le placement qui est devenue au cœur des exigences des Français. On sent que c'est un sujet qui concerne tout le monde et qui les intéresse beaucoup. Les gens passent à l'acte maintenant, alors qu'avant, ils y réfléchissaient sans forcément passer à l'acte. Malgré la crise, tout à fait. En fait, c'est même la crise a renforcé cette volonté de passer à l'acte, de se rendre indépendant le plus vite possible. Ça, c'est hyper intéressant. Et après ça, il y a deuxième point, c'est notre façon de traiter ce sujet en général. Effectivement, là où on répond, je pense, bien à la problématique du moment, c'est qu'on permet à un investisseur d'investir sans la moindre intervention. S'il souhaite ne rien faire, rester chez lui, il peut investir où il veut, quand il veut, dans des produits qu'il n'aurait jamais trouvé tout seul. Et nous, on fait tout le travail à sa place. Donc, il y a tout ce côté accompagnement qui est très agréable. Et on s'appuie pour tout ça sur du digital qui permet de donner beaucoup de transparence. Donc, en fait, on a l'impression d'avoir tout fait tout seul quand on n'a pas bougé de chez soi. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on maîtrise bien l'investissement Et en même temps, on a été accompagné tout au long de la démarche.
Très bien. Alors, pour ceux qui sont intéressés par votre modèle et qui veulent peut-être investir au travers de Beanstock, est-ce que vous avez un site internet ?
Oui, beanstock.fr, BEANSTOCK.fr.
Parfait. Merci beaucoup, Alexandre Fitoussi, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le CEO et le cofondateur de Beanstock. Merci.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Par une nouvelle disposition de loi, certains loueurs de meublés vont se retrouver assujettis au régime de la sécurité sociale des indépendants. Ils avaient auparavant le choix. Résultat de ce changement avec Vincent Favero.
Depuis une nouvelle disposition de loi, l'ensemble des loueurs en meublés professionnels sont assujettis aux cotisations sociales. Auparavant, ils relevaient du régime des prélèvements sociaux où le taux était de 17,2%. Initialement, donc, trois conditions étaient requises pour s'inscrire comme activité de loueur en meublé professionnel. Les recettes annuelles du foyer fiscal tirées de cette activité excédaient 23 000 euros. Ces recettes excédaient les revenus du foyer fiscal dit professionnel. Et puis un membre du foyer fiscal est inscrit au RCS en tant que loueur professionnel. Il était possible de rester loueur meublé non professionnel en cas de non-inscription volontaire au RCS. Dorénavant, les deux premiers critères, s'ils sont remplis, considéreront que le loueur est un professionnel et il sera donc assujetti automatiquement aux cotisations sociales. Conséquence directe, des taux de cotisations sociales variables et dégressives vont s'appliquer. Peu contraignant pour les loueurs importants, mais très contraignant pour les petits loueurs, ceux dont les revenus tournent autour des 23 000 euros par an. Autre conséquence, à la revente du bien immobilier, les plus-values vont être taxées sur la base du régime des plus-values professionnelles en loueur meublé, ce qui implique une cotisation sociale à la revente sur la plus-value à court terme, et c'est plus contraignant. Sur la base de cette nouvelle disposition intégrée à la loi de financement de la sécurité sociale 2021, les professionnels sont en attente des décrets d'application qui viendront préciser les dispositions de cette nouvelle réglementation.
Le Mac de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Décret tertiaire et rénovation énergétique des bâtiments. Axéo Énergie vous accompagne pour optimiser votre projet et garantir sa performance énergétique et économique. Nous vous assistons de A à Z. Audit énergétique, année de référence, modulation des objectifs, identification des meilleures solutions, schéma directeur, suivi de la maintenance. Nos engagements, une totale indépendance, des prestations de haute qualité, des outils innovants, des ingénieurs spécialisés, un temps de retour sur investissement optimal et la garantie réelle de performance énergétique après travaux. Parce que de la précision initiale naît la performance finale. Axéo Énergie, www.acceo.eu. Contactez-nous pour optimiser votre projet de rénovation énergétique.
Bonjour, c'est Christophe Bordet sur Radio Immo. Je vous propose de découvrir ensemble les lieux qui comptent pour les stars. Chaque mois, dans l'émission La Maison où je vis, un écrivain, un chanteur, un comédien nous raconte les maisons, les appartements, les monuments qui ont marqué et qui marquent encore leur vie. Vous êtes curieux ? Alors visitons ensemble leurs espaces de vie. Découvrons leur intérieur, leurs tendances déco. Suivez-nous sur Radio Immo, La Maison où je vis. C'est le vendredi à 20h. On compte sur vous.
Le Mac de l'Immo continue en partenariat avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
Et puis le groupe Alila, spécialiste du logement social et intermédiaire, a présenté ses résultats annuels. Le groupe continue sa croissance et sa mission de proposer des logements de qualité adaptés aux besoins des classes modestes et moyennes. Pour son président Hervé Legros, les années qui vont suivre vont devoir relever un défi, celui de combattre une crise du logement sans précédent. Il a répondu aux questions d'Élodie Rabel.
Bonjour Hervé Legros.
Bonjour.
Vous êtes donc le président fondateur d'Alila. Vous venez de présenter vos résultats de l'année écoulée. L'année 2020 a été une année particulière pour tout le monde, vous y compris. Vous avez dû composer avec le Covid, bien sûr, mais aussi les municipales. Deux facteurs, avec quelles conséquences pour votre activité ?
deux conséquences assez inédites, parce que c'est vrai que la crise sanitaire, malheureusement, personne s'y attendait, et le report des élections municipales, personne s'y attendait également. Malheureusement, dans la période municipale, de janvier jusqu'à septembre, rien ne s'est passé. Donc c'est vrai que l'année a été quand même relativement courte. Nous, on juge chez Adila qu'on a fait une année en 7 mois. Donc c'est vrai que quand il manque 5 mois à la fin de l'année, ça reste malheureusement compliqué. Mais on est extrêmement heureux et fiers de présenter des chiffres qui sont en augmentation, en grande croissance. Et ça, c'est une vraie réussite collective, aussi bien de nos collaborateurs, mais aussi de nos partenaires.
Oui, justement, vous n'avez pas à rougir de vos résultats, vous avez augmenté votre chiffre d'affaires.
On finit l'année à 754 millions, qui est 23% de plus que l'année 2019, qui était à 611 millions d'euros. Surtout, ce qui était important, c'était de pouvoir aujourd'hui de maintenir l'activité, ce qu'on a fait même lors du premier confinement, en respectant bien évidemment les règles sanitaires, mais l'ensemble des partenaires, des équipes, ont été, dès le lendemain du confinement, au travail pour essayer de faire avancer les choses, faire avancer nos chantiers, livrer nos opérations. Voilà, 2020 était importante, mais 2021 cela sera aussi. Mais à partir de 2022-2023, il va falloir aujourd'hui qu'on réalimente en tout cas notre portefeuille d'activité.
C'est très clair, hein, dans votre bilan, nous faisons face à une crise du logement sans précédent. À quoi est-elle due ?
Elle est due en fait à malheureusement beaucoup d'épisodes contraires en tout cas à ce que devrait être une vraie politique du logement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise du logement est une crise qui dormait depuis déjà des décennies, hein. C'est-à-dire que on a une politique du logement qui était pas bonne, qui est toujours pas bonne. Ce qui est assez dingue, c'est que nous connaissons une crise avec une récession qu'on n'a pas connue depuis à peu près 80 ans, et on a un secteur d'immobilier qui a augmenté de 6%. Donc il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et il ne tourne pas rond parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas une politique qui est claire, et surtout on n'a pas une politique volontariste de construire du logement neuf dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des demandes qui sont supérieures à l'offre, et quand vous avez des demandes supérieures à l'offre, vous avez un immobilier qui augmente, voilà. Et c'est ce qui fait que malheureusement les gens n'arrivent plus à se loger décemment, car il n'y a pas assez de produits sur le marché.
Vous plaidez donc pour un plan de relance du logement, avec quelles mesures par exemple ?
Alors je plaide plus que pour un plan de relance, j'espère bien, et en tout cas je mettrai beaucoup de cœur à ce que le logement soit dans les prochains débats des présidentielles, parce que là, on a une chance devant nous, c'est qu'à 12 mois maintenant, on va avoir le premier tour d'élection présidentielle, et donc il faut que le logement soit un élément important de cette campagne. Je rappelle que le logement est un produit de première nécessité, donc qui dit première nécessité dit aussi première dépense des foyers des Français. On ne peut pas mettre le logement de côté. Donc bien évidemment, on prône pour un plan de relance, mais on prône surtout pour un plan ambitieux, et avec une vision à long terme sur qu'est-ce que sera le logement dans 10, 15, 20 ans. Vous rendez compte, il y a 2,5 millions de personnes qui attendent un logement social dans notre pays, il y a 4,5 millions de mal logés. Enfin, on a un immobilier qui a exclu les classes moyennes de la plupart des grandes métropoles, car aujourd'hui l'immobilier est beaucoup trop cher pour eux. Enfin, voilà, donc il faut les faire ramener, il faut faire du logement intermédiaire, il faut faire du logement abordable, il faut faire un logement maîtrisé, et puis surtout il faut faire un logement adapté. Quand je dis un logement adapté, c'est un logement aujourd'hui qui correspond aux besoins des Français. On parle de télétravail, on parle aujourd'hui que notre façon de vivre et notre façon de travailler va changer, sauf que nos logements ne sont pas adaptés, donc c'est pas possible. Avec Adila, on essaie de faire bouger les choses et on va essayer de faire autre chose. Voilà.
D'ailleurs, c'est votre devise, hein. Et si tout le monde était bien logé ?
Exactement. Voilà. C'est une phrase qui paraît anodine. Et pourtant, en France, on est en train encore de se poser la question si tout le monde était bien logé. Et malheureusement, la réponse est non. Et j'espère bien pouvoir, en tout cas, pas que moi, mais avec les autres acteurs, parce que c'est ensemble qu'on réussira. Le monde HLM, les acteurs de la promotion, les élus, le gouvernement, à favoriser aujourd'hui le logement et surtout à répondre aujourd'hui aux vrais besoins des habitants. Voilà, on a un gros chantier devant nous. En tout cas, c'est un combat que je mène maintenant depuis des années. On a la chance d'avoir une présidentielle qui s'ouvre devant nous. Et j'espère bien que le logement soit aujourd'hui au cœur de cette campagne.
Merci Hervé Legros.
Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Dans certaines régions, les prix des maisons individuelles montrent des marges de négociation très limitées. Et puis à l'inverse, d'autres sont beaucoup plus intéressantes pour les acheteurs. Revue avec Vincent Favéron.
Nous vous en parlions la semaine dernière. Le baromètre LPI Se Loger du mois de mars dévoile les derniers chiffres de l'immobilier. Et parmi ces chiffres, on retrouve une étude qui précise par région française les marges de négociation sur les maisons individuelles. On parle des anciennes régions métropolitaines, soit 22 régions, et les surprises sont grandes. Actuellement, la moyenne de marge de négociation s'établit à 4,6% dans le pays. Selon l'étude LPI Se Loger, que détaillent nos confrères de Capital.fr, il s'agit des marges parmi les plus basses jamais vues par l'étude. Mais les 4,6% que l'on constate au niveau national montrent au niveau local des chiffres bien différents. Ainsi, en région Bourgogne, en Lorraine ou en Bretagne, les marges sont bien plus hautes, autour de 8%, 8,2% en Bourgogne, du côté de Dijon, 7,4% en Lorraine vers Metz et Nancy, et 7,1% en Bretagne, des marges fortes. Des régions où les vendeurs et acheteurs ont plus de mal à tenir le prix de base de leurs biens immobiliers à la vente. De l'autre côté du spectre, les marges sont beaucoup plus faibles en Aquitaine, de Bordeaux à Biarritz, en Midi-Pyrénées vers Toulouse ou dans le Nord-Pas-de-Calais, en moyenne entre 2 et 3%, bien loin de la moyenne nationale à 4,6%. Si les marges évoluent sensiblement dans les mêmes strates qu'avant la crise, la période actuelle marque quand même le grand retour des maisons dans les volontés d'achat. Les vendeurs de maisons ont donc le vent dans le dos pour profiter des négociations de plus en plus intéressantes.
Le Mac de l'Immo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.
classique hein, pour poursuivre cette matinée. C'était Michael Jackson avec Billie Jean.
Le Mac de Limo, permis de démolir, Robin Rivaton.
Comme chaque semaine, on retrouve l'édito de Robin Rivaton qui jette un œil sans complaisance au monde de l'immobilier.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Permis de démolir, l'émission qui met fin aux fausses idées sur l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du retour de la maison partagée. Évidemment, la crise sanitaire a donné à beaucoup de Français, et même d'ailleurs de partout dans le monde, des envies de grand air. Le dernier sondage OpinionWay nous disait que 25%, un Français sur quatre, avait envie de céder aux sirènes de la résidence secondaire dans les prochains mois. Et déjà, les professionnels de l'immobilier voient ce phénomène se confirmer avec de nombreuses transactions qui ont eu lieu sur les littoraux, sur les bords de mer, que ce soit en Normandie, sur la côte atlantique ou sur la côte méditerranéenne, avec de nombreux ménages qui passent à l'acquisition, sans que cela ne soit pour l'instant traduit par une tendance inflationniste ou par réellement une hausse des prix. Mais le segment a le vent en poupe. Évidemment, les désavantages ou les désagréments liés à la résidence secondaire n'ont pas disparu. On les connaît tous. Beaucoup de frais d'entretien, une occupation qui est souvent parcellaire et qui n'est pas nécessairement tout au fil de l'année, et ainsi de suite. Et donc, commence à voir ou à poindre le retour de ce qu'on appelait les appartements ou les résidences partagées. Inventées à la fin des années 60, à travers le concept de pierre et vacances, l'idée était simple. Vous veniez quelques semaines par an dans votre domicile, et en échange, vous laissez la gestion à un opérateur le reste de l'année, pour qu'il puisse vous générer des loyers et vous permettre ainsi d'accéder à la propriété avec un coût marginal relativement faible. Le modèle s'est développé, a prospéré pendant les 30 ou les 40, même les 50 années suivantes, avec plus ou moins de succès sur certaines destinations. Il a été évidemment extrêmement frappé par la crise sanitaire, mais voilà qu'il revient. La semaine dernière, une start-up aux États-Unis qui s'appelle Pacaso vous permet d'acheter entre amis cette fois, donc c'est peut-être la différence et c'est peut-être ce qui séduit, vous permet de vous grouper entre amis pour acheter une résidence secondaire que vous occuperez de manière déterminée, que vous pourrez même louer à l'extérieur les semaines ou les jours ou les week-ends dans lesquels vous ne viendrez pas. Et cette start-up qui a été créée en août 2020, tenez-vous bien, a été valorisée pas moins de 1 milliard de dollars 8 mois après sa création, montrant bien que les investisseurs croient dur comme fer, que le modèle de la maison partagée va renaître de ses cendres, va connaître un second souffle avec cette crise sanitaire. Pour mémoire et pour l'anecdote, vous retiendrez que cette entreprise n'a servi que 100 familles qui se mettent souvent à 8 pour acheter une maison. Donc en tout, il y a eu une douzaine de transactions. 12 transactions égale 1 milliard de valorisation. Bienvenue dans le nouveau monde.
Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
L'Assemblée nationale a entamé ce lundi l'examen en séance du titre 4 « Se loger » du projet de loi Climat et Résilience. Les questions des passoires thermiques étaient évidemment au cœur des débats, comme nous le raconte Nicolas Tarade.
L'Assemblée nationale a commencé lundi à examiner les articles liés au logement dans le projet de loi Climat. L'interdiction à la location des passoires thermiques figure parmi les principales mesures. 4 800 000 passoires thermiques en France, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique, dont dépend celui du logement. 20 articles en tout, de l'article 39 à l'article 58, composent le titre 4 du projet de loi consacré à la thématique se loger. Une bonne partie porte sur la rénovation de ces logements mal isolés et ruineux à chauffer qui sont responsables d'importantes émissions de CO2. Selon le projet de loi, les logements les plus énergivores, ceux classés F et G, au titre du diagnostic de performance énergétique, seront exclus du marché locatif à partir de 2028. Par ailleurs, les loyers des passoires thermiques seront gelés à compter de mi-2022, plus précisément un an après l'entrée en vigueur du texte. Les députés de la majorité souhaitent par ailleurs reprendre plusieurs propositions formulées par Olivier Sichel. Il plaidait notamment pour la mise en place d'outils pédagogiques, comme la création d'un réseau national d'accompagnateurs. Objectif, orienter chaque propriétaire vers des artisans et simplifier le parcours de rénovation, notamment l'accès aux différentes aides publiques mises en place.
Le Mac de Limo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier.
Et ce matin, je vous propose d'écouter ou de réécouter le portrait que nous avions consacré à Loïs Bourdic, le directeur général de Price Hubble, un homme simple et brillant que nous avions rencontré le 16 octobre dernier. J'étais aux côtés de Sylvain Lévy-Valency, je vous laisse en profiter. Après le Mac de l'Imo, et bien comme chaque vendredi, Allo Radio Imo, à 11h, retrouvez la semaine copro de Gilles Frémont, et puis rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau numéro du Mac de l'Imo, dont l'invité sera Laurent Bizot. Il est président de l'UNEP, hein, l'Union des entreprises du paysage et de la nature. Vous pourrez découvrir ça à partir de 8h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de Radio Imo.
Le Mac de l'Imo revient avec Promi, Crédit Advisor et Opinion System.